Le continent subsaharien peut être classé ou réparti en trois catégories de pays au moins. D'une part, des pays qui sont vraiment au bas de la pente, hein, qui vont depuis la Somalie jusqu'au Soudan, en passant par la RDC, etc. Des pays pétroliers qui connaissent des afflux de ressources importantes. Et puis effectivement, une bonne douzaine de pays qui ne sont pas particulièrement dotés en ressources pétrolières et minières et qui connaissent depuis une quinzaine d'années des taux de croissance dans la gamme des 6-8% par an. Parmi ces pays, on trouve par exemple le Mozambique, le Ghana, l'Ouganda, le Burkina Faso, le Kenya dans une certaine mesure, le Rwanda. Ce sont des pays qui sont extrêmement divers. Les uns sont côtiers, les autres sont enclavés. Certains sont sahéliens, d'autres sont forestiers. Donc il n'y a pas de déterminisme géographique. Il n'y a pas de déterminisme politique. Certains sont des démocraties, d'autres sont des dictatures ou des régimes autoritaires très forts. Donc c'est une grande diversité de situations, mais c'est aussi une grande nouveauté dans l'histoire économique africaine.
Comment expliquer qu'ils aient su tirer leur épingle du jeu de cette manière ?
Il y a des facteurs qui sont communs à tous les pays africains. La fin des années 90, c'est une période de renversement de tendance et de conjoncture pour l'Afrique, parce que les cours des matières premières se remettent à croître, parce que la démographie africaine atteint des seuils tels que, enfin, on voit des marchés intérieurs se créer, ce que les faibles densités démographiques ne permettaient pas d'avoir. Et puis c'est une période aussi dans laquelle on voit le désendettement des pays s'opérer pour deux sortes de raisons. La première à cause des annulations de dettes et de l'autre côté à cause de l'amélioration des finances publiques intrinsèques. Hein. Les cures d'austérité d'ajustement structurel ont enfin marché et la conséquence c'est que ces pays rétablissent des capacités d'investissement. Et ce sont tous ces facteurs cumulés qui, dans un certain nombre de pays qui par ailleurs ont la chance de ne pas connaître des crises politiques majeures, permettent le rétablissement de taux de croissance élevés.
Cette bonne santé économique, en fait, elle n'ouvre pas nécessairement sur davantage de démocratie.
Non, ni moins de corruption non plus. Ce n'est paradoxal que dans la mentalité des Occidentaux, parce que si vous regardez l'histoire de la croissance économique sur la planète, et en particulier dans les 60 dernières années en Asie, là où elle était la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité, cette croissance s'est faite dans un climat de déni de démocratie et de corruption extrêmement élevé. C'est la source du grand succès des Chinois par rapport aux Occidentaux. Les Occidentaux ont dit pendant 20 ans aux Africains « Soyez intègres, démocrates et faites du social et vous allez avoir du développement. » Et les Asiatiques viennent et disent « Au bout de 20 ans, où en êtes-vous ? Et regardez-nous, nous avons donné la priorité au business, aux infrastructures et puis on se fiche complètement de la corruption et des droits de l'homme. » Donc il faut être extrêmement vigilant sur ces sujets-là et ne pas se tromper de discours. Et nous avons, en tant qu'Occidentaux, une très grande exigence éthique. Mais de là à prétendre que la satisfaction de critères démocratiques est une des conditions du succès économique, il y a un pas que l'histoire ne permet pas de franchir.
Est-ce que ces exemples, du moins d'un point de vue économique, pourraient faire école sur le continent ?
Bien entendu. Un problème fondamental de l'Afrique, après 20 années de décroissance, de perte d'espérance de vie à la naissance, d'échecs, c'est la perte de confiance. Et le fait de voir un certain nombre de pays qui reprennent le chemin de la croissance, une croissance rapide, résolvent des problèmes, donnent satisfaction à leur population, ça c'est un exemple qui fera tache d'huile.